et bienvenue sur Radio J. Nous sommes le mardi 17 juin, il est 9h. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h comme tous les matins et je vous souhaite une très bonne matinée.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Dans une dizaine de minutes, la signature du mardi. Il s'agit de Nehama Altabé, qui est professeure des écoles. Elle nous parle éducation et aujourd'hui, particulièrement, elle nous dira ce que dit la Torah en ces temps troublés, ce que dit de la Torah de la force des enfants. Tout à l'heure, donc, à 9h10. Juste derrière, l'œil du philosophe Daniel Siboni sur la guerre entre l'Iran et Israël. Et puis, à 9h30, nous ouvrons cette page culture avec Hélène Schumann. Ce matin, notre invitée. Il s'agit de Sophie Dulac, qui est la créatrice et la directrice du Champs-Élysées Film Festival, qui a lieu du 17 au 24 juin. On en parle tout à l'heure à partir de 9h35.
Léa Moscona.
Radio J.
Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec le journal présenté par Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de l'actualité, de fortes explosions entendues à Tel Aviv et Jérusalem après des tirs de missiles iraniens.
Les sirènes d'alerte ont retenti ce matin. Des débris sont tombés dans la région de Tel Aviv. Le bilan provisoire fait état de 5 blessés légers. Une salve d'une vingtaine de missiles, donc tout à l'heure. Et hier soir, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est revenu sur la stratégie de la guerre face au régime islamique, Daniel Haïk.
Dans son intervention, Benjamin Netanyahou a énuméré les succès obtenus depuis le début de l'opération Éveil du Lion par les forces israéliennes en Iran. Il a affirmé qu'Israël était sur la voie d'une immense victoire. Nous contrôlons le ciel iranien. Nous avons très durement frappé la centrale de Natanz. Nous avons neutralisé la moitié des drones offensifs iraniens, ainsi qu'un très grand nombre de missiles balistiques. Le Premier ministre a mentionné les trois principaux objectifs de la guerre contre l'Iran. Détruire le programme nucléaire iranien, détruire le programme des missiles balistiques et détruire l'axe terroriste iranien dans la région.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
L'armée israélienne a éliminé le nouveau chef d'état-major iranien.
Il s'agit d'Ali Shadmani, moins d'une semaine donc après l'élimination de son prédécesseur. Ce matin, l'armée israélienne a aussi conduit plusieurs frappes d'envergure. À l'instant, il y a à peu près une dizaine de minutes, deux explosions entendues dans le nord-ouest de l'Iran, selon les médias locaux. Des explosions à Tabriz à 5 minutes d'intervalle, alors que des cibles militaires ont également été frappées plus tôt dans la matinée, des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol.
La radio-télévision d'État iranienne, visée par une frappe israélienne hier, Tzahal avait appelé les habitants du quartier de Téhéran, où se trouve son siège, à évacuer.
L'attaque a eu lieu en plein direct. Une animatrice voilée s'est fait surprendre lors de son intervention. Selon Téhéran, cette frappe aurait fait 3 morts. Les programmes ont en tout cas été momentanément interrompus. Le régime islamique a dénoncé un crime de guerre et a même osé en appeler à l'ONU.
Les dirigeants du G7 appellent à une désescalade avec l'Iran tout en soulignant qu'Israël a le droit de se défendre.
Le président américain a appelé les habitants de Téhéran à évacuer immédiatement la ville alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Mais Donald Trump refuse d'évoquer une participation à l'opération lancée par Israël contre le régime islamique et son programme nucléaire.
La France ferme 5 stands israéliens d'armement au salon du Bourget. Ils ont été encadrés de grands panneaux noirs.
Et leur accès est donc impossible. C'est comme créer un ghetto israélien de ne pas permettre aux entreprises de montrer leur contribution à la défense du monde, a dénoncé le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français.
On peut trouver des formules pour attirer l'attention sur tel ou tel point, mais bâcher de noir les stands israéliens, pour moi, a été glaçant. Quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu ces mots portés par les responsables israéliens, eh bien, j'ai vraiment eu un sentiment de malaise. Alors, après, on va nous expliquer qu'il fallait produire des avions défensifs, offensifs. Tout ça est ridicule parce que ou on accepte les sociétés israéliennes ou on ne les accepte pas. Et à partir du moment où on les accepte, tout comme d'ailleurs on accepte des sociétés chinoises qui exposent, eh bien, on le fait sans restriction.
Ariel Goldman, 5 sur les 9 entreprises israéliennes présentes sont donc visées par ces mesures. Selon une source française, elles présentaient des armements offensifs comme ceux susceptibles d'être utilisés à Gaza, ce qui violerait le cadre initialement prévu.
Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes demande le retrait du drapeau israélien du fronton de la mairie de Nice.
Il y voit une atteinte au principe de neutralité du service public. Le maire de Nice, Christian Estrosi, affirme quant à lui « Je continuerai jusqu'au bout à mettre mon énergie contre toutes les formes d'antisémitisme et d'antisionisme ». En région parisienne, la préfecture des Hauts-de-Seine a aussi demandé, au nom du même principe de neutralité des services publics, le retrait d'un drapeau, mais celui-ci palestinien hissé sur le parvis de l'hôtel de ville de Gennevilliers. Et on fait un point sur la situation en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, bonjour.
Bonjour Eva.
Pascal, tout à l'heure, donc une nouvelle salve de missiles iraniens, une vingtaine de missiles. Apparemment, il y a eu des blessés.
Oui, on parle de blessés légers, 5 blessés légers dans ce qui semble être la chute de débris de missiles d'interception sur un dépôt d'autobus, en fait un parking où les bus étaient garés pour la nuit, donc loin d'une zone habitée. Il y a des dégâts matériels, plusieurs véhicules ont pris feu, donc on parle de 5 blessés légers superficiellement par des éclats, donc pas d'impact de missiles directs. Les missiles qui menaçaient les zones de population ont été interceptés par la défense antimissile. En tout cas, c'est la quatrième salve tirée par l'Iran depuis hier soir. Au cours de la nuit, on avait vu les tirs moins nourris dans la mesure où les missiles partaient par unité ou par deux ou trois. Là, ce sont apparemment 20 missiles en une seule salve. Les alertes avaient d'ailleurs été étendues à l'ensemble du pays. Donc cette fois-ci, l'attaque se solde, on peut dire, par un échec de l'Iran. Mais évidemment, la vigilance est toujours de mise.
Et Pascal, évidemment, ça remet en cause ce qu'on aurait pu envisager dans la nuit. C'est-à-dire que comme il y avait eu seulement, entre guillemets, 10 missiles tirés contre Israël, ça pouvait faire croire que l'Iran venait à bout de son arsenal. Ce qui s'est passé ce matin le remet en cause, en quelque sorte.
On est seulement au cinquième jour de l'opération. On a déjà l'impression, évidemment, d'être dans un bouleversement géostratégique d'ampleur cosmique. Non, pour l'instant, c'est seulement 5 jours. L'armée israélienne, l'aviation de Tzahal, a une feuille de route précise. Elle doit tenir ses objectifs en sachant que de l'autre côté, l'Iran a une puissance de feu considérable qu'elle continue à utiliser malgré les coups que lui porte sans arrêt la chasse israélienne. Donc pour l'instant, l'opération continue et l'arrière doit donc rester vigilant.
Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr cet après-midi dans le 14-15, le grand journal sur Radio J que j'aurai le plaisir de vous présenter. À tout à l'heure Pascal et prenez soin de vous. Merci.
Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 9h30 pour le rappel des titres avec vous Eva.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J.
Allez, un mot du temps, il fait beau, il fait chaud, il fait même très chaud sur Paris, la région parisienne. Nous avons 19 degrés en ce moment avec un ciel bleu, très peu de nuages. Mais cet après-midi, nous aurons 30 degrés, voire 31 degrés. Voyez donc, c'est vraiment l'été qui s'installe déjà depuis quelques jours. La même situation pour demain, mercredi et après-demain, jeudi, du grand beau soleil sur Paris. Nous partons en Israël avec 25 degrés. Déjà ce matin et aussi 29-30 degrés pour cet après-midi et un temps à peu près équivalent pour les jours suivants. Voyons la capitale, Jérusalem, la capitale d'Israël, avec 25 degrés ce matin, également 29-30 degrés pour cet après-midi, le grand soleil aussi pour les jours à venir.
Radio J. Le 9-10, Léa Moscona.
Et pour la signature du mardi, nous avons le grand plaisir d'être en ligne avec Nehama Altabé, qui est éducatrice, qui est professeure des écoles et directrice de l'école Aleph Beth de Saint-Mandé. Bonjour à vous, Nehama.
Bonjour Léa.
Alors, une période peu facile à vivre, également pour les enfants. Et ce matin, vous vouliez ouvrir cette émission avec ce que dit la Torah de la force des enfants dans ces situations-là.
Tout à fait. Il est très intéressant de voir que, depuis quelque temps, nous voyons que les enfants ont une place extrêmement importante dans les textes de la Torah. Et encore une fois, même dans des situations compliquées, on le voit à nouveau. Dans le livre des psaumes, le psaume 8, le verset 3, il y a un verset qui dit « Nipi olelim veyonkim issadeta oz lema'an torecha lahashbit oyev umitnakem » Je vous traduis « De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as établi ta puissance à cause de tes tourmenteurs pour réduire au silence ennemis et vengeurs. » Alors, un peu, ce verset pose énormément de questions.
Oui.
En fait, les commentateurs expliquent et disent comme quoi la force des enfants, c'est la force, c'est entre nous, c'est une force que Dieu a donnée aux enfants de pouvoir changer les choses. De quelle manière ? Eh bien, par la force de l'étude de la Torah, du fait de leur pureté, de leur innocence, par le fait d'accomplir des mitzvot, par le fait d'étudier des textes de la Torah, eh bien, tout peut changer. Et donc, c'est la force des enfants. On avait parlé comme quoi Dieu a accepté de donner la Torah parce que les enfants en étaient les garants. Eh bien, aussi, par cette pureté, par cet engouement, par des enfants, eh bien, aussi, les choses peuvent changer.
Oui. Les enfants nous enseignent aussi quelque chose. Il y a un va-et-vient entre, finalement, les adultes et les enfants.
Complètement. Oui. Pour la petite histoire, en 1973, à la veille de la guerre de Kippour, le rabbi de Lubavitch avait demandé à ce que des rassemblements d'enfants aient lieu où on leur fait étudier la Torah, parce que c'est grâce à ces rassemblements et cette étude des enfants que la situation pourrait évoluer. Et il expliquait qu'en fait, à l'époque du miracle de Pourim, Mardoché avait réuni lui-même des enfants pour changer le décret d'extermination du peuple juif qui avait été fomenté par Assyrus à l'époque.
Mmh. Oui, la pureté des enfants en guise de prières qui sont peut-être des prières qui agissent davantage que celles des adultes, si je comprends bien.
Eh bien, puisque l'adulte va prier en connaissance de cause,
oui.
Alors que l'enfant ne va le faire que par innocence et par attachement. Donc,
oui.
Sa prière et son étude a deux fois plus de valeur que celle de l'adulte.
Voilà, donc c'est un bel enseignement à retenir. Alors, on poursuit notre émission avec déjà ce que nous avions commencé la semaine dernière. Nous parlions de « apprendre à comprendre » et vous donniez quelques activités à mettre en place justement pour favoriser cet apprentissage.
Tout à fait. En fait, il faut, pour pouvoir essayer de travailler le fait de comprendre un texte, eh bien, il faut savoir qu'il existe deux types de langage. On a le langage parlé du quotidien et on va avoir le langage lu. Et il faut savoir que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'un enfant peut parfaitement comprendre ce qu'on lui dit, les consignes qu'on lui donne, donc le langage du quotidien, et répondre positivement à tout ce qu'on va lui demander. Et d'un autre côté, quand on va lui raconter un texte, quand on va lui lire un texte, on va lui raconter une histoire, eh bien, il va terminer en disant « mais j'ai rien compris ».
Oui. Ouais.
Comment se fait-il qu'on puisse avoir
cette réaction ouais. Oui.
Alors, moi, je le vois en classe. Hein.
Oui.
Les enfants qui lisent un texte et je lui dis « Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai rien compris.
Ah, oui.
Donc, comment se fait-il ? Pourtant, c'est sa langue maternelle.
Oui.
Comment peut-il dire qu'il n'a rien compris à un texte lu ? C'est sa langue. Ce sont des mots qui sont relativement simples. Comment se fait-il qu'il n'ait rien compris ? Eh bien, en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, ce travail se fait dès le plus jeune âge. quand un enfant, quand on va commencer à lire des enfants, des histoires aux enfants, eh bien, l'enfant va déjà s'habituer à ce langage écrit. Donc, c'est rigolo en termes d'appellation, hein, puisque c'est un langage écrit, du fait qu'on emprunte la tournure de phrase, la manière de s'exprimer va être complètement différente qu'un texte oral, qu'un langage quotidien, que notre langage quotidien. Donc, première étape, lire des histoires aux enfants. Pour être sûr qu'il ait compris, eh bien, on pourrait simplement poser une question qui va être très simple, très basique, comme comment s'appelle le personnage principal ?
Oui.
Et donc, à ce moment-là, l'enfant doit faire une petite mémorisation de l'histoire entendue et se dire, eh bien, j'ai entendu trois personnages dans l'histoire, duquel a-t-on parlé le plus ? Donc, il va avoir une petite démarche intellectuelle, rétrospection de l'histoire, pour pouvoir nous répondre. L'intérêt de raconter des histoires, même si on n'a pas systématiquement le temps de pouvoir poser des questions derrière, etc., ce qui est extrêmement important, dans tous les cas, c'est de commencer à le faire. Parce que ça va travailler l'esprit de l'enfant. Et en fait, il va essayer, dans sa tête, de pouvoir reconstituer le texte afin d'avoir une chronologie dans son histoire. Il est intéressé à la comprendre. Naturellement parlant, il est intéressé à comprendre. Si il a l'habitude que son papa ou sa maman lui raconte une histoire avant de dormir tous les soirs, eh bien, son intérêt, ce n'est pas uniquement d'entendre la voix de ses parents pour l'endormir, mais c'est de pouvoir en profiter et d'entendre une histoire qui est agréable pour lui. Donc, automatiquement dans sa tête, il va se créer une chronologie pour se dire « Ah, et le personnage a eu tel ou tel, est passé par tel ou tel événement, oui. Et finalement, voici le dénouement de l'histoire. »
Voilà, il s'accroche peut-être à la chronologie, il s'accroche aussi peut-être aux relations de cause à effet, puisque le déroulé de l'histoire pour lui a un sens, et c'est grâce à ce sens, s'il fait l'effort, qu'il peut comprendre. Finalement.
Tout à fait, ouais. Exactement. Donc, il va essayer de saturer personnellement une cohérence dans tout ce récit. Et donc, quand le lendemain ou quelques jours plus tard, le parent va lui dire « Est-ce que tu connais l'histoire de la petite poule rousse ?» Eh bien, l'enfant va essayer de mémoriser tout ce qui lui a été raconté les jours précédents.
Oui.
Et donc, il va planifier un discours cohérent pour pouvoir nous raconter. Et quand un enfant entend bien une histoire, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il prend le temps de se la remettre en image virtuellement.
Oui.
Et après, il va essayer de nous raconter un discours qui est complètement cohérent. Il va peut-être oublier certains détails, etc.
Oui.
Mais il va le faire de manière plutôt, il va le faire d'une bonne manière.
Oui.
Si c'est un texte qui lui a plu, il va essayer de nous le retranscrire de la meilleure des manières.
C'est ça.
Et en fait, c'est une gymnastique d'esprit que l'enfant doit avoir dès le plus jeune âge. Donc, sans que ce soit un travail qui a été fait dans le cadre de l'école, etc., ne serait-ce que commencer à lui raconter des histoires, eh bien, c'est déjà énorme parce que, involontairement, tout ce travail-là va être fait intellectuellement pour lui.
Alors, si je comprends bien, il y a en jeu, un, le plaisir à écouter cette histoire, deux, du plaisir va dépendre aussi la mémorisation, donc il y aura plus de facilité à raconter l'histoire et donc à comprendre, mais Nehrama, vous n'avez pas prononcé un terme qui me semble important et qui est peut-être un mal que vivent beaucoup les enfants aujourd'hui, peut-être même les adolescents, c'est la concentration. Qu'est-ce qu'on peut dire de la concentration ?
Eh bien, au niveau de la concentration, en fait, si on a envie que l'enfant puisse pouvoir nous raconter l'histoire, il doit maintenir sa concentration pendant tout le temps du récit.
Et oui.
S'il s'évade à un moment donné, eh bien, il ne sera plus en mesure de pouvoir nous la raconter. Et du fait qu'il est tiré par ce lien affectif de la voix de ses parents ou de ses frères et sœurs ou de ses grands-parents, parce que tout le monde peut s'y mettre, eh bien, en fait, il va s'y tenir par ce lien affectif et maintenir sa concentration. Et si c'est un exercice qui est fait dès le plus jeune âge, au fur et à mesure, on peut en fait raconter des histoires de plus en plus longues, prendre de plus en plus de temps. Et encore une fois, c'est un exercice. Donc si on a commencé tout petit avec un petit livre, eh bien au fur et à mesure, les livres pourront être de plus en plus importants. Et même à l'âge de 7-8 ans, dire à l'enfant, écoute, là c'est un livre qui fait une petite centaine de pages, on va le faire sur une semaine. Tous les soirs, tu auras droit à ton épisode.
Et donc, en fait, l'enfant va maintenir sa concentration, sa mémorisation, etc., d'un jour à l'autre pour pouvoir reconstituer son récit.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, c'est un exercice qui s'apprend dès le plus jeune âge et qui est de plus en plus facile à mesure que l'on grandit.
Complètement. Petite remarque supplémentaire.
Oui.
On n'est pas obligé de s'arrêter sur des histoires. On peut également travailler autour de documentaires. Si on est là, on va également attiser la curiosité de l'enfant sur un sujet donné. Ça peut être, je ne sais pas, en prévision de vacances à la mer. Eh bien, on va essayer de découvrir toute la nature qui va se trouver à l'endroit où nous allons aller.
Bah,
on est en bord de plage. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la méduse? Qu'est-ce que c'est que l'étoile de mer? Et donc, feuilleter un documentaire qui va nous permettre, en fait, de découvrir les choses. Et les enfants seront ravis, au moment donné, quand ils arriveront en vacances, de pouvoir découvrir et nommer toutes les choses qu'ils ont pu voir. Mais ça peut être également un vrai plaisir du soir.
Et ben voilà, une très bonne idée. Merci Nehrama Altabé, que nous retrouvons chaque semaine, le mardi, pour la signature. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles et directrice de l'école Aleph Beth de Saint-Mandé. À la semaine prochaine.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Raffal.
Radio J. Bonjour, c'est Serge.
Bonjour, c'est Nicolas.
On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J.
Au programme médecine, chirurgie,
bien-être
et santé. Rendez-vous avec les Raffal père et fils sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarc.
Radio J.
Radio J. Le 9-10. Le 9-10. Léa Moscona.
L'œil du philosophe Daniel Siboni. Bonjour à vous, cher Daniel.
Bonjour Léa.
Alors Daniel, vous allez nous parler de l'attaque contre l'Iran. Que vous inspire depuis 5 jours ce conflit entre Israël et l'Iran?
Eh bien, c'est la guerre la plus nécessaire qu'on puisse imaginer. Je l'avais d'ailleurs annoncé dans mon livre « Les non-dits d'un conflit » en disant qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, s'expliquer avec l'Iran. Cette guerre referme la boucle sinistrement ouverte le 7 octobre. Une fois les proxys quasiment disparus ou très affaiblis, c'est la guerre la plus juste. L'autre veut vous anéantir. Il l'a écrit et proclamé sur tous les tons et il prépare l'arme adéquate pour y arriver. Quelles autres conditions faut-il pour qu'il soit justifié de l'attaquer afin de lui casser cette arme et son pouvoir d'envoyer des explosifs sur les civils comme il le fait maintenant? Et l'on découvre au fil de l'attaque que l'Iran, contre l'Iran, pardon, que celui-ci est un tigre en papier, certes, mais avec des dents balistiques qui peuvent faire mal. Le peuple, bien sûr, est en mesure d'y résister et donc de remporter une vraie victoire, ne serait-ce qu'en supprimant pour longtemps, pour peut-être quelques années, l'épée de Damoclès nucléaire qui était suspendue sur lui et en cassant le compte à rebours annonçant l'effacement d'Israël. Il y en a eu qui l'ont annoncé, cet effacement, au cours des siècles. Je vous renvoie au psaume 83 qui décrit une coalition comportant des descendants d'Agar et d'Ismaël et décidant de faire en sorte que le nom d'Israël soit effacé. Bien sûr, un tel plan a réussi, tout comme d'autres massacres, quand le peuple d'Israël était désarmé. Maintenant, ce n'est plus le cas, de sorte que la parole fondatrice qui doit prévaloir, c'est « n'aie pas peur, Altira ». Parce que si le peuple lutte pour son existence, il ne peut pas être vaincu. car cette existence est l'expression même de la fameuse promesse divine. Si le peuple existe, c'est que la promesse est vivante. Réciproquement, si on croit à la promesse, alors on existe. Et dire que cette promesse est divine, c'est simplement dire qu'elle échappe aux décisions des uns et des autres. Cette idée s'applique aussi aux individus. Ceux qui doutent de pouvoir exister sont ceux qui n'ont pas eu accès à la promesse d'existence qui pourtant les a mis au monde et qui se tient au cœur de leur origine. Bien sûr, j'ai une pensée pour les aviateurs israéliens qui ont sous leurs pieds un pays habité par la haine d'Israël, un pays où l'on enseigne qu'il faut absolument éliminer le petit Satan que sont les Juifs et le grand Satan que sont les chrétiens représentés par l'Amérique. Ils ont aussi sous leurs pieds un peuple opprimé où les femmes sont reléguées, sont empaquetées, sont interdites d'exprimer leur désir de vie. Et comme chaque événement draine son lot de bêtises, celui-ci foisonne de telles bêtises. On entend des choses comme « Et pourquoi Israël aurait-il droit à l'arme nucléaire et pas l'Iran ?» Voilà une pensée bien égalitariste à laquelle il faut répondre parce que l'Iran programme cette arme nucléaire pour détruire un peuple et qu'Israël ne veut détruire aucun peuple. Il n'en a simplement pas envie, à supposer qu'il en ait les moyens. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'accuse de vouloir faire un génocide. C'est par la même inversion ou projection. Ceux qui veulent le génocide du peuple juif l'accusent de génocide et entretiennent la rumeur selon laquelle les soldats israéliens ont un goût très particulier pour le meurtre des enfants et des femmes. Alors que ces soldats, je les connais comme vous, ce sont des étudiants, des enseignants, des techniciens, des employés qui ne demandent qu'à rentrer chez eux et reprendre leur travail. Leur jouissance n'est pas de tuer, au contraire. C'est celle du camp d'en face qui a amplement avoué cette jouissance massive le 7 octobre. La Torah dénonce le meurtre des enfants. C'est pourquoi on a accusé pendant des siècles les Juifs d'aimer tuer les enfants. Et cette accusation tient jusqu'à nos jours. C'est quand l'Iran et autres proxys tirent sur les civils en Israël qu'on accuse celui-ci d'avoir ce goût particulier pour tuer les civils. J'ai entendu un journaliste iranien officiel insister « Sachez que les Israéliens visent les civils ». Il a bien compris le point où il fallait appuyer, comme si l'opinion mondiale n'avait plus qu'un système réflexe et aucune réflexion sur ce point, comme si le conditionnement était acquis de façon définitive. J'ai même entendu un grand politicien français dire qu'on aurait dû continuer à négocier avec l'Iran. L'Iran qui adore négocier depuis 2002, pendant que les centrifugeuses s'approchaient du seuil critique. Eh bien non, pour lui, il fallait encore négocier. Alors que Trump, l'obsédé du deal, avait déclaré forfait. Plus les racines, non pas religieuses, mais identitaires du conflit, apparaissent évidentes, plus certains s'acharnent à recadrer le problème entre Israël et Hamas comme problème entre colonisateurs et colonisés, entre occupants et occupés. Un problème donc qui se négocie en donnant des territoires. J'ai amplement démontré que c'est faux. Les gens du Hamas qui ont déboulé le 7 octobre ne criaient pas « mort aux Israéliens », mais « mort aux Juifs ». Le petit jeune homme qui a appelé sa mère en jubilant, n'a pas dit « j'ai tué des Israéliens », mais « j'ai tué des Juifs ». Et c'est pour ça qu'elle l'a félicité, qu'elle l'a béni, parce que cela se rattache à une exigence fondamentale qui est justement celle de l'Iran. Mais la meilleure preuve que ce n'est pas un problème de colonisateur à coloniser, mais de juifs à musulmans radicaux, c'est l'Iran. C'est lui qui a mis en place le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, etc. Et je ne sache pas que l'Iran soit un champion de l'anticolonialisme, mais c'est un champion de l'antisémitisme qui veut être le meilleur élève de la classe islamique pour ce qui est de mener la lutte contre les juifs.
Alors il y a une question quand même qui se pose, c'est de savoir si les anti-Israël vont défendre l'Iran, des mollahs contre Israël, ceux qui depuis le 7 octobre se sont soulevés contre Israël.
Ben oui, c'est un vrai dilemme où ils se trouvent. Je dirais que c'est une occasion pour eux de se ressaisir de leur naïveté. Et est-ce qu'ils vont la saisir? Certains la saisissent et se rendent à l'évidence, mais d'autres trouvent moyen de s'infiltrer et de trouver que Israël n'a pas le droit d'attaquer. Maintenant, si on en vient au fond, la stratégie d'Israël a été admirable. Plutôt que de se retrouver à la remorque de la bipolarité de Trump, Israël a tranché par l'acte. Il attaque, il répond au danger réel. Parce que l'Iran ne cessait d'avancer tout en menant en bateau les Occidentaux. Israël a fait acte et c'est une vraie leçon pour bien des individus. Souvent dans la vie, on ne fait pas acte alors qu'on en a les moyens parce que ceci ou cela, parce que quand certains diront ceci ou cela. Faire acte, c'est exprimer la nécessité existentielle. Merci. De cet instant.
Merci Daniel Siboni, très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Radio J.
Radio J. Et tout de suite, c'est le rappel des titres. Il est 9h32, vous écoutez Radio J. Le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs blessés légers en Israël ce matin après de nouveaux tirs de missiles. Une salve d'une vingtaine de missiles iraniens. Donc, les explosions ont été entendues à Tel Aviv et à Jérusalem. Par ailleurs, l'armée israélienne a éliminé le nouveau chef d'état-major iranien moins d'une semaine après sa nomination et l'élimination déjà de son prédécesseur. La radio-télévision d'état iranienne visée par une frappe israélienne hier, Tzahal avait appelé les habitants du quartier de Téhéran où se trouve son siège à évacuer. Il y aurait eu 3 morts selon Téhéran. Les dirigeants du G7 appellent à une désescalade avec l'Iran tout en soulignant qu'Israël a le droit de se défendre. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui pour une réunion spéciale en visioconférence à propos de la situation en Iran. La France ferme 5 stands israéliens d'armement au Salon du Bourget. Ils ont été encadrés de grands panneaux noirs. Leur accès est impossible. C'est comme créer un ghetto israélien, a dénoncé le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. 5 sur les 9 entreprises israéliennes présentes sont visées. Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes demande le retrait du drapeau israélien du fronton de la mairie de Nice. Il y voit une atteinte au principe de neutralité du service public en région parisienne. La préfecture des Hauts-de-Seine a demandé au nom du même principe le retrait d'un drapeau palestinien hissé sur le parvis de l'hôtel de ville de Gennevilliers.
Merci Eva, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet.
Léa Moscona.
Allez, restez avec nous dans un instant. J comme culture avec Hélène Schumann et notre invitée Sophie Dulac. Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique. Chaque jour, c'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Chirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel Enmi, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzar et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzar1948.com.
Netzar1948.com et 0603 52 88 88. Chirelle. Sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Léa Moscona.
Radio J. Et c'est l'heure de J comme culture. On a le plaisir de retrouver Hélène Schumann. Bonjour chère Hélène.
Eh oui, bonjour.
Alors Hélène, je vous laisse présenter notre invitée ce matin.
Eh bien, connaît bien. Oui, on la connaît bien, notre Sophie Dulac, puisque Sophie avait une chronique ici, sur le cinéma, et nous la regrettons fortement, et j'espère qu'elle va revenir. Elle est venue nous parler de son Baby Festival. C'est la 14e édition de Champs-Élysées Film Festival et c'est du 17 au 24 juin. On va en parler ce matin.
Mais il y a une soirée. Alors, voilà. Dans un cinéma qui est lié à Sophie, hein, évidemment. Et alors, c'est une soirée que vous organisez.
Eh bien, oui, enfin, que j'organise. Il y a toujours un peu Sophie quand je fais ce festival du cinéma israélien. Elle est toujours avec moi. Et effectivement, c'est ce soir au Majestic Passy à 19h30. Et c'est un très beau film, Remda, avec Sassone Gabaye. Et c'est important par ces temps de guerre. Et je crois que Sophie ne va pas me contrarier de continuer à faire le cinéma israélien.
Faut tenir, les filles.
Ouais. Et Sassone Gabaye nous a fait un très gentil message, Sophie, qui passera avant le film pour nous dire qu'il est vraiment très reconnaissant que nous on fasse vivre. Et en l'occurrence Sophie, qui grâce à elle, on peut faire le festival. Vous savez, Léa, c'est important parce que par les temps qui courent. C'est pas évident de trouver un cinéma qui accepte le cinéma israélien et je crois que
Sophie est la seule en France.
Je crois que Sophie, France, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas c'est vrai que voilà, on la remercie. Mais maintenant, eh bien, on va parler de son bébé. Alors c'est une 14e édition, Sophie. Alors cette édition, maintenant le temps a passé, il s'est bien installé ce festival.
Et très bien. Alors, petite précision, ça se termine le 23 juin cette année. Et pas le 24, on a clôturé un jour plus tôt. Oui, ça se présente bien, j'ai envie de vous dire, on est un peu rodé maintenant au niveau de l'organisation. Le seul problème que nous rencontrons, et qui est un problème de taille néanmoins, c'est que comment continuer à faire un festival de cinéma sur une avenue où il n'y a quasiment plus de salles de cinéma? Parce que les Champs-Élysées se dépeuplent de leurs salles de cinéma, on en a perdu 4 en 14 ans.
Au profit de restaurants,
de magasins, de bon. Donc c'est compliqué effectivement. Donc on a essayé d'innover. On a fait rentrer un théâtre, qui est le théâtre du Rond-Point par exemple, qui est un très très bel endroit. Le club de l'Étoile avec qui on va travailler. Le Mac
Donc
Mahon,
ça c'est là où il y a des les projections.
Publicis et le Balzac. Ouais. Voilà.
Donc et dans le théâtre du Rond-Point, il y a des c'est possible de.
Oui, il y a deux très belles salles avec un écran qui descendent pour l'occasion, qui n'est pas toujours là. Et on va faire là des rencontres, on va faire là des masterclass. C'est un magnifique endroit.
C'est une très bonne idée parce qu'il y a un très bon restaurant.
Il y a un restaurant qui est pas mal, absolument.
Donc en fait, les gens peuvent se restaurer, aller au cinéma, écouter les conférences. Bon, c'est une très belle idée. Et c'est vrai que ce que j'aime dans ce festival, Léa, c'est que ça dépasse le cinéma. Bien sûr, le cœur, c'est le cinéma, mais il se passe des tas de choses autour, des rencontres et maintenant Sophie, vous mêlez cinéma et chansons et spectacles, il me semble.
En fait, c'est un festival qui est destiné au public, voilà. Le public, aujourd'hui, pour moi, s'il n'y a pas de public dans les salles de cinéma, ben, on arrête. C'est-à-dire, le public, c'est quand même fondamental. Donc, c'est pour le public. Donc, effectivement, on propose des DJ sets le soir sur la terrasse.
Ouais.
DJ sets sur la terrasse. Il faut qu'il y ait une ambiance conviviale, sympathique, chaleureuse, sur un quartier qui a encore une image un petit peu snob, un petit peu riche, entre guillemets, vous voyez. Bon. Mm-hmm. Et là, c'est un public vraiment qui vient de tous horizons, très jeune, et qui peut participer vraiment sans aucun problème à ce festival et avoir accès aussi aux artistes qui sont là.
Ça, c'est bien. Et alors, bien. Donc, ce soir, il y a une soirée un peu particulière, même si c'est sur invitation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler
oui,
de
tout
ce
fait.
Déroulé
ben, ce soir, on va ouvrir cette 14e édition au Théâtre du Lido, en fait.
Ouh
oui, le théâtre qui est magnifique. C'est vraiment un endroit absolument magnifique. Et ça fait un petit moment que je me dis, ça serait bien qu'on ouvre un jour le festival dans cet endroit magnifique. Mmh. Théâtre du Lido, hein, ça s'appelle maintenant comme ça. Et avec un spectacle qui s'appelle Titanic. Alors, c'est une parodie d'un film, évidemment, Titanic, avec une Céline Dion qui va être très particulière. Ouais. Et effectivement, je trouvais que c'était amusant de proposer ça. En fait, au public, ça change un peu.
Non, puis surtout, c'est du cinéma.
Et ça et reste ça, quand même c'est... quelque part, bon, une forme de cinéma quand même.
Donc ça, c'est votre ouverture et il n'y a pas de film derrière.
Non,
c'est Titanic.
Pas de film derrière, absolument.
Voilà, et donc une référence à ce grand film où on a tous beaucoup pleuré. Et alors après, il y a un cocktail. Comment
non,
ça se
passe? Non, il y a un cocktail avant.
D'accord.
Il y a un cocktail avant. En fait, l'idée, c'est de ne pas se coucher trop tard, pour être honnête, le soir de l'ouverture. Pour qu'on puisse quand même tenir
non, mais parce que les gens viennent
semaine.
Pas sinon quand c'est trop tard.
Non mais si après si parce que surtout l'équipe, je parle de l'équipe.
Ouais.
Après ils sont obligés d'être là. Bon. Donc cette année on fait soft, après on va se coucher ou pas. Enfin les gens font ce qu'ils voudront mais en tout cas moi j'irai me coucher.
Ouais.
Et cocktail avant donc de 19 à 20 heures et après on lance le show
Sophie,
après mon discours.
Quand vous dites que les gens, le public est au centre finalement, ça va déterminer vos critères de choix pour les films. Alors c'est quoi aujourd'hui la tendance pour plaire au public? Qu'est-ce que veut le public?
Non, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est surtout nous qui
imposons.
Alors, c'est pas le mot que j'aurais pris, que j'aurais pris, mais qui proposons une cinématographie qui fait que, enfin, on va créer un besoin, en fait, si vous voulez, sur du cinéma américain, notamment, puisque personne n'y voit beaucoup, parce qu'il n'y a pas forcément de distributeur. Donc, nous, on a une programmation qui, d'abord, nous fait plaisir, dont on pense qu'on va pouvoir partager avec le public, et après, le public adhère. Ou pas d'ailleurs, parce que le cinéma,
c'est
très subjectif.
Vos coups de cœur, en fait.
Voilà,
Sophie.
Exactement.
Voilà.
Et puis, des films un peu tendance aussi, dont on connaît les réalisateurs, où on a quelquefois eu les réalisateurs en court-métrage, qui sont venus en compétition, qui font après un long-métrage, donc ça arrive souvent. Et après, c'est tellement subjectif, le cinéma, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais nous, en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est que d'abord, on aime.
Mm-hmm. Ça, c'est bien. Oui. Et alors, on va revenir peut-être sur la définition de ce festival, c'est indépendant, ça veut dire pas des gros blockbusters,
ah non,
c'est
jamais,
ça.
Non.
C'est des films qui aussi, peut-être un peu comme le cinéma israélien, ne trouveront pas de distributeur.
Le cinéma américain.
Peut-être.
Américain.
Oui.
Les Français ont un distributeur à peu près. Bon,
d'accord.
Voilà. Les Américains. Non, et ce qu'on essaie de faire tous les ans, c'est qu'au moins un film soit acheté par un distributeur américain, ce qui arrive d'ailleurs.
Donc c'est un tremplin finalement, ce festival.
C'est une forme de tremplin, exactement.
Mm-hmm. Et donc, quelles sont la sélection? Je veux dire, il y a des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires par exemple?
Il y a tout.
En fait,
il y a documentaires dans la sélection du long-métrage, il y a des courts-métrages, il y a des moyens-métrages que malheureusement on ne voit jamais, les moyens-métrages qui sont formidables, je veux dire. Alors, vraiment, il y a des moyens.
Moyens-métrages, c'est quoi? 40 minutes à peu près?
C'est jusqu'à 55 minutes.
D'accord. Voilà. C'est après, difficile comme format.
30 minutes court-métrage, à partir d'au-delà de 30 minutes, c'est moyen-métrage.
D'accord.
Et à partir d'une heure, 1h05, c'est un long-métrage. Ça déployé, ça tient pas à grand-chose. Bon. Et donc, on a des auteurs comme Sébastien Becbédé, par exemple, qui a fait des formidables moyens-métrages, avec des longs-métrages aussi. Et c'est drôle parce que c'est plein d'humour. Et puis, ça questionne beaucoup aussi sur cette année, sur le sens de la vie, sur l'errance un peu de la jeunesse, des gens qui ont 30 ans, qui ne savent pas où ils sont, où ils vont. Donc, on est un peu dans cette mouve-là. Et en fait, on l'a pas choisi. C'est-à-dire que c'est en fait là. Les films qui sortent, qui parlent de ce sujet-là. C'est pas nous qui avons décidé, tiens, on va faire un sujet sur les...
Oui, il n'y a pas de thématique.
Il
n'y
a pas de thématique.
Fait.
Donc, tous les ans, il y a une thématique qui se révèle, donc qu'on n'a pas forcément choisi.
Oui. Voilà. Et alors, justement, cette année, quels sont vos coups de cœur, Sophie?
Alors, moi, j'ai un coup de cœur qui est un film d'animation. en long métrage, qui s'appelle Arco, qui est absolument extraordinaire. Un film d'animation que j'ai vu à Cannes, qui a une séance à Cannes, un peu sur une animation de futur, c'est absolument extraordinaire. Et puis j'ai.
C'est pas facile, hein, l'animation.
Non, mais celui-là est très accessible et vraiment, enfin, je sais pas si vous allez, si vous le verrez, mais en tout cas, c'est vraiment génial. Les enfants sont évidemment les bienvenus. Pas mal de films français, mais ça, bon, je dévoile pas trop parce que je veux pas trop spoiler, mais tous les films français me plaisent, vraiment. Ah ouais. Sinon, on les prendrait pas.
Et ça, c'est des films distribués. Sophie, les films
français. Oui, ils sont tous un distributeur, pratiquement un distributeur. D'accord. Et sur le plan américain, j'ai un coup de cœur sur un film qui s'appelle Familiar Touch, qui est absolument merveilleux, sur un EHPAD, mais alors un EHPAD où tout le monde rêverait d'aller vraiment.
Ah ouais, d'accord.
Tellement c'est magique. Bon, les EHPAD, vous savez, de qu'on aime comme ça, où il y a la bienveillance, oui. Où les gens sont heureux. Bon. Ouais. Et puis un autre film que j'aime bien, qui s'appelle Mad Bill aussi, qui est pareil, d'un couple de jeunes gens, 16 ans et 19 ans, qui sont ensemble, elle va être enceinte, et ils sont pas prêts du tout à accepter ça. Donc c'est un peu cette errance aussi aux États-Unis de ces jeunes comme ça qui sont là.
D'accord.
Pas très mature. Bon, très très joli film. Voilà. Après, il y a beaucoup de courts-métrages que j'aime beaucoup. Et il y a un moyen-métrage que j'aime beaucoup. Alors, comment ça s'appelle? J'ai un trou. Qui sont quatre femmes d'un certain âge marseillaises qui vont tous les jours à la plage et qui racontent leur vie. Elles sont seins nus. Elles n'ont aucun état d'âme. Elles n'ont aucune pudeur de rien du tout. Elles racontent leur vie. Elles se racontent des trucs absolument géniaux.
Ouais.
Et jusqu'au moment où on apprend qu'une des femmes, bon, a un secret que je ne vous dirai pas. Mais ça, c'est merveilleux. Bon. Bah, non. C'est merveilleux parce que c'est tellement frais, c'est drôle. Ouais. C'est voilà, moi j'aime bien ça. Ouais.
Alors Sophie, ce sont des films de cinéma indépendant. Est-ce que en France il y a de la place pour ce cinéma-là?
Ah oui.
D'accord.
Ah oui, bah quand même. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu le succès du cinéma en France, c'est le cinéma indépendant, le cinéma d'arrêt d'essai indépendant, premier film qui ouvre aujourd'hui une diversité cinématographique qui est nulle part ailleurs.
Alors, on peut dire que Sophie est vraiment, si vous voulez, celle qui a lancé le cinéma indépendant. Et je crois qu'il faudrait aussi la remercier pour ça, parce qu'il y a pas beaucoup de gens aussi bien. Production, distribution, exploitation.
Qui ne risque pas, parce que finalement, c'est un investissement.
Pas, voilà, elle a quand même 5 salles, ouais. Sophie. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que dans vos salles, en fait, il n'y a pas ce Champs-Élysées Festival.
Non.
Vous avez décidé de l'exporter
j'ai
sur...
J'ai pas de salle sur les Champs-Élysées. Bon,
voilà. Peut-être.
J'en ai pas.
Voilà.
Et puis, c'est sur cette avenue qui m'attire, moi. Mmh, qui m'attirait, où il ne se passe rien sur le plan culturel.
C'est vrai.
Entre l'Arc de Triomphe et le Rond-Point, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est un quartier très culturel. Il y a des théâtres, il y a des musées qui entourent c'est les Champs-Élysées. Et donc, c'était un peu un challenge. Hein. On va faire venir des gens sur les champs qui ne viennent plus voir du cinéma.
Alors, est-ce qu'il y a des films que vous avez montrés dans ce Champs-Élysées Film Festival qui ont trouvé, en tout cas pour les Américains, un distributeur moi, alors, vous allez nous le dire. Moi, je pense, je reviens à ça parce que c'est vrai qu'en dehors de ce cinéma américain et français que vous montrez dans votre festival, Sophie a produit des films israéliens qu'elle a distribués, comme La visite de la fanfare, qui est un plus.
Sassoon Gabay, justement.
Avec Sassoon Gabay. Et c'est vous. Donc, est-ce que dans le cadre de Champs-Élysées Film Festival, il y a eu des films qui ont trouvé à la fois des distributeurs?
Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que tous les ans, on arrive à vendre au moins un film américain. Moi, j'en ai acheté un l'année dernière.
Ah, voilà.
Celui de Nathan Silver. Qui était en compétition. Non, j'en ai même acheté deux, hein, moi, du festival. 68, Mon père et les clous, qui était un documentaire génial sur la fin d'une droguerie à Rumonge, enfin, qui était une institution.
Ah oui, c'était extraordinaire.
Ah oui, c'était absolument génial.
Ouais.
Et suite de Nathan Silver, dont le titre m'échappe, encore une fois, pardon, mais peu importe. Et donc, tous les ans, effectivement, alors après, le problème, c'est le succès en salle ou pas. C'est-à-dire que le distributeur l'achète. Bon, on n'est jamais sûr que ça va marcher.
Alors,
mais...
à partir de combien d'entrées vous estimez qu'un film a un succès en salle?
Ah bah,
c'est
ça
intéressant.
Alors, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de combien vous achetez le film, du nombre de copies que vous avez. Donc, disons que pour nous, en tout cas, film d'arrêt d'essai indépendant, à partir de 100 000, 150 000 entrées, on est très, très, très contents. On est très, très contents.
Voilà, 150 000 entrées.
Si on fait plus, La Fanfare, on a fait 500 000. La Bière du Silence, on a fait 500 000. Anna Arendt, on a fait 400 000. Bon. Donc ça, c'est des films extraordinaires. Il n'y en a pas tous les jours, malheureusement. Donc nous, c'est vrai qu'on met des petits minimums garantis sur nos films. Parce que, bon, donc, si on dépasse les 100 000, on est content.
Voilà. Alors Sophie, il y a un nouveau visage incontournable du cinéma indépendant. Moi j'ai vu le film Shiva Baby, Baby Shiva. Oui, alors c'est Emma Seligman qui sera mise à l'honneur dans une rétrospective. Bon, elle vient pas parce que c'est toujours compliqué pour les Américains, etc. Oui. Peu importe, il y a ces films. Et est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bah alors... Pas vraiment, honnêtement. D'accord. Pas vraiment. Non, on va pas se mentir, je vais pas vous dire de bêtises. Bon, Emma est une, c'est dommage qu'elle vienne pas, mais bon, pour des raisons qui lui sont propres, elle veut pas quitter les États-Unis.
Ouais.
C'est quand même une réalisatrice vraiment de la scène indépendante américaine qu'on avait vraiment envie de mettre en avant. Elle a fait deux films, hein. Bon, mais qui sont des petits brûlots, en fait, quelque part. Qui sont vraiment intéressants. C'est pour ça qu'on veut les montrer, parce qu'en France, je pense que personne n'a montré les films d'Emma.
Je crois qu'elle a même pas trouvé de distributeur. Oui, je pense pour Shiva Baby.
Exactement.
Qui se passe dans une Shiva. Dans une famille religieuse. Et il y a une des filles qui va mettre un peu le bazar à tout ça. Parce qu'en
il faut y aller parce que c'est une sorte de rébellion.
Parce qu'en fait, elle est lesbienne. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est. Non, mais les Américains sont libres.
Oui.
Mais ça reste quand même très, très sage, hein, pas à l'israélienne.
Justement, quel regard vous portez sur l'évolution du cinéma américain ou français d'ailleurs? Est-ce que vous comparez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se révèle
c'est difficile de comparer deux cultures cinématographiques. Les Américains sont, je trouve, ils ont d'abord de par le pays où ils habitent, ils ont la possibilité d'avoir des scénarios, des décors absolument fabuleux.
Parce qu'ils ont les moyens.
Des décors au naturel.
Ah, au naturel. D'accord.
Non, le cinéma indépendant n'a pas de moyens. Il vient de faire produire en France. Personne ne les produit aux États-Unis.
Ah ouais.
Les Français, c'est différent. On est toujours ça, pour moi, dans mon avis, on a toujours un peu peur, je pense, de sortir d'une certaine créativité, d'un certain schéma de sujet, qu'on traite d'ailleurs très bien. Mais parfois, je pense que ça manque un tout petit peu
de courage.
Merci, de courage. Exactement, de courage. Alors que le cinéma américain est plus courageux, je pense. Ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire.
C'est pour ça qu'ils inventent peut-être davantage que les Français.
Exactement. Alors que nous, Français, d'abord, on a beaucoup d'aide.
Oui.
On a beaucoup d'aide, donc c'est vrai que c'est un peu...
On y assiste.
Je ne dis pas que c'est simple de faire un film en France, mais parce que c'est compliqué de faire un film, mais on a quand même pas mal d'aide, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis.
Ah oui,
non.
Ils n'ont pas toutes les avances. Mais là, comment ils font alors?
Ah ben justement, ils cherchent. Ils viennent se faire produire en France. Je parle des indépendants. Hein. Je parle pas des très très gros blockbusters, bon,
sont
financés bien entendu. Mais des petites pépites d'une heure et demie comme on peut voir de temps en temps. Bon. Et donc, ils ont envie de parler des choses. Ils ont envie de se libérer. On sent ce qui est moins le cas des Français, je trouve. À quelques exceptions près. Alors, j'ai vu cet été, au mois de mai à Cannes, le film de Javier Herzi. Qui s'appelle La Petite Dernière, qui est un film absolument incroyable, où d'ailleurs l'actrice a eu la palme de la meilleure
comédienne.
Et Avzia, quand on la connaît, c'est une jeune femme un peu timide, qui fait des très jolis petits films, qui est une actrice. Et là, tout d'un coup, elle se lâche. Mais vraiment, elle se lâche. Ça se passe c'est une histoire d'une jeune femme qui découvre qu'elle est musulmane et qui, effectivement, est lesbienne et qui va vivre ça d'une manière absolument incroyable. Et on voit qu'Avzia, elle aime cette actrice, elle aime ses acteurs, et on sent que là, elle a envie de dire des choses.
Bon, est-ce que le cinéma, ça dessine un petit peu l'avenir de la société ou des mœurs ou des valeurs, selon vous? Est-ce que dans l'histoire du cinéma, vous avez noté ça, qu'il y avait une influence carrément du cinéma sur la société?
Non, je pense que c'est plutôt l'inverse.
C'est l'inverse.
Je pense que c'est la société qui a une influence sur le cinéma.
Ouais.
Et le cinéma, ça doit rester... C'est du rêve, le cinéma, quand même, quelque part. C'est de la fiction, alors par le documentaire, mais on doit rêver au cinéma. Si effectivement, à part les documentaires, on rentre dans ce qu'on vit tous les jours,
ça va pas.
Bah non.
C'est ce que Hollywood arrivait à faire. Le Hollywood des années 40, 50. Alors, vous trouvez que dans les films de cinéma indépendants, il y a encore cette notion de rêve?
Oui,
chez les Américains.
Oui, il y a beaucoup de notions de questionnement, très clairement. Mais il y a encore du rêve, oui, il y a encore du rêve.
C'est important de rêver. Alors, Sophie, justement, autour du festival, est-ce que vous pouvez nous parler des gens qui vont être jurys ou de la marraine, Rebecca Zlotowski?
Non, Rebecca n'est pas la marraine du festival.
D'accord.
Elle était l'année dernière la présidente du festival, du jury long métrage.
Mais elle revient, je crois. Non.
Bon,
Si elle veut.
Elle revient, je ne sais pas. Là, pour l'instant, on a... un jury de long métrage, court métrage et moyen métrage, hein, parce que
donc il y a des prix, c'est ça que je veux dire.
Il y a des prix. Les longs métrages sont dotés de 11 000 euros pour le réalisateur.
Dans le
prix du jury, il y a le prix du public Il y a le prix du jury, le prix de la meilleure réalisation, qui est doté également. Les courts-métrages sont dotés de 2 500 € pour le réalisateur et le moyen-métrage de 3 000 €.
Voilà. Ouais.
Donc c'est plutôt pas mal, effectivement. Oui. C'est pour encourager les prochains films. Et donc c'est le rôle du jury de déterminer quelle va être.
Dur travail. Hein, oui, parce que sur quels critères.
C'est pas facile parce que les films sont vraiment tous de très bonne qualité.
Parce que finalement, est-ce qu'il faut suivre son opinion, c'est-à-dire ses goûts, ou bien est-ce qu'on a un cadre bien précis pour noter?
Non, il n'y a pas de cadre. Après chaque jury est différent. Chaque jury fonctionne comme ils ont envie de fonctionner. Mm-hmm. Au couture, quelquefois, il y a des ex-échos. Bon, ça peut arriver.
Oui.
Quelquefois, ils ne s'entendent pas du tout.
Ouais, oui.
Bon, donc il faut la voix du président vaut double. Donc, bon, peut-être que c'est là que ça se joue.
Oui.
Mais moi, je ne suis pas dans les délibérations. Mais mm-hmm. jusqu'à présent, en tout cas, ils ont beaucoup récompensé le documentaire de manière très intéressante. Mm-hmm. Long métrage, voilà. Ou américain ou français.
Sur quel type de sujet ? Ça a été de mémoire.
Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, c'était Kokomo City, par exemple, qui était un documentaire extraordinaire sur des jeunes femmes noires américaines, transgenres. Enfin, elles cumulaient tous, les pauvres. Bon. dont une s'est fait d'ailleurs faire assassiner. Dont une s'est d'ailleurs fait assassiner, malheureusement, à l'époque. Oui. C'est pour ça que la réalisatrice n'est pas venue. Bon. Ouais. 68 Pompère et les clous, par exemple. Oui. Voilà, ça a été primé par le jury. Donc il y a pas mal de sujets qui les touchent, je suppose, ou qui résonnent chez eux d'une certaine façon. Mm-hmm. Moi, ça m'est égal, ils font ce qu'ils veulent. Et après, on verra cette année ce que ça va être, parce qu'il y a des films de fiction qui sont vraiment très bien.
Ah oui. Mm-hmm. Alors, on parlait de distributeurs et de films qui trouvent des distributeurs. Au niveau des acteurs, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des acteurs qui passent dans votre festival et qui remportent après un succès, se voient proposer d'autres films?
Alors, je vais vous dire, je ne sais pas parce que je n'ai pas le suivi de ça. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'il y a quelques années, 3-4 ans, il y avait Tim Ross qui était venu sur le festival.
Ouais. Il y a eu des stars,
Que des stars américaines.
Des
stars américaines, des Christopher Walken, Tim Ross, Keanu Reeves, Ali Berry,
Jeff Goldblum,
Kyle MacLachlan, Abel Ferrara. Enfin, on a vraiment eu beaucoup de grosses stars américaines. Mm-hmm. William Friedkin, enfin, qui sont des gens merveilleux. L'exorciste, absolument. Et donc, l'année dernière, il y a 2-3 ans, Tim Ross est sur la terrasse et rencontre Mia Hansen-Love, qui était notre invité d'honneur. Bon. Ils ont fait un film ensemble. Voilà. Ils se connaissaient pas.
Je croyais que vous alliez me dire un bébé.
Forme de bébé cinématographique.
Ouais, non,
Tim, j'adore sa femme, il n'y a pas de souci.
Il est très beau. Alors,
ils ont mis tellement d'une gentillesse.
Ils ont fait un film extraordinaire sur Bergman.
Voilà,
Birman. Magnifique.
Et ils ne se connaissaient pas du tout, donc ils se sont rencontrés sur la terrasse.
Donc il y a des synergies.
Et c'est un peu l'idée de ce festival aussi, c'est de créer des synergies comme ça.
Mais tout se passe parfois, surtout dans ce festival, et ça, j'adore ça. En dehors, c'est-à-dire que vous montez sur la terrasse du cinéma Publicis et il se passe des tas de choses. Ouais. Il y a des cocktails, les gens parlent. Et c'est tout à fait pour vous, Léa.
Oui. Il y aura Tom Cruise, parce que je voudrais savoir. J'aimerais bien faire un film avec Tom Cruise.
Non, mais par exemple,
trouvez-moi le budget pour et je l'invite.
Oui, parce que ce que Sophie, on va se détendre un peu, mais ce que Sophie vous dit pas, c'est le budget qu'il faut pour inviter.
C'est bien.
Alors là, c'est que du business, suites.
Moi, je veux bien éviter l'hôtel. Si jamais je n'ai pas d'hôtel pour Tom Cruise, il n'y a pas de souci.
Non, moi, je réfléchis. Je pense que les grandes figures, ou alors il faut aller, vous savez, dans ce truc de tennis là qui vient de finir.
Roland Garros.
Parce que j'ai vu mon acteur préféré, Dustin Hoffman.
À Roland Garros.
Oui, et peut-être vous pourriez l'inviter parce que visiblement.
Il fait notre marché chez vous.
Oui, bah.
Allez, l'année prochaine.
Quel âge il a, Dustin Hoffman?
70 ans, je pense.
Non, alors Léa, je pense que tu peux rajouter.
Non, plus grand 10 ans, à mon avis.
Vous pouvez rajouter.
Non.
À mon avis, si. Bon. Je pense qu'il n'est pas loin.
Bah, je crois qu'il faut finir, là, malheureusement. Déjà, on était bien partis.
Merci beaucoup.
On va rappeler les dates, quand même, là, parce qu'on est à l'aise. Donc, Champs-Élysées Film Festival du 17 au 23 juin. Il faut aller sur le site, peut-être.
Il y a toute la programmation sur le site, absolument. Et je rappelle que la politique tarifaire cette année, c'est le prix à la séance.
Ah, voilà.
8 euros la séance. Mm-hmm. Et celui qui a son pass rooftop, 6,50 €.
Ah, voilà. C'est bien. Allez-y. Et n'oubliez pas Remda dans un de ses cinémas ce soir, 19h30, absolument, au Majestic Passy.
Merci, mesdames.
Merci Sophie.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05, et c'est uniquement sur Radio J.
Il vise des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là, chaque seconde, auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org
mda-france.org
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Dans un instant, il sera 10h, l'heure de retrouver Lise Gutmann comme chaque jour. Lise qui est déjà à mes côtés pour nous présenter le programme de son heure à venir. Bonjour Lise.
Bonjour Léa. Alors on va commencer avec la saison Médème Plage. C'est une nouveauté du centre Médème, moi aussi, du 1er au 15 juillet. Ouais. Et ce sera Chantal Bronstein qui sera avec nous pour nous en parler. Puis ce sera
en maillot de bain, évidemment.
Ah, bien sûr, oui, oui, elle a mis son plus beau maillot. Ensuite, ce sera les rendez-vous de l'UEJF et on terminera à 10h32-33 après le rappel des titres d'Eva Soto avec François Hazard pour le programme d'Aqui Estamos dans le Festival des Cultures Juives. Et puis, pas que, et puis pour les dernières parutions de sa maison d'édition des livres pour les